compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour auditrices et auditeurs, lectrices et lecteurs, dans ce 14e chapitre du 2e tome de Polar Vin et Compagnie, où vous entendrez Richard, qui ne vient rien nous vendre, et Florent, notre digueur, comme disent les jeunes, et vu notre moyenne d'âge, nous dirons fouineur ou chineur, Florent qui nous a une fois de plus dégoté un premier roman qui va nous tenir en haleine. Il y a quelques semaines, nous avions déjà évoqué le gel du Pass Culture collectif qui n'a pas rendu possible cette année le partenariat habituel avec le Collège de Millau et donc l'organisation de notre rencontre avec des auteurs et autrices que nous organisions à cette même période. Nous avions lu un éditorial d'Alexandra Schwarzbrod qui est autrice de Polar mais surtout directrice adjointe de la rédaction du journal Libération. Ce même journal, il y a quelques jours, titrait un article ainsi. Quoi qu'en dise Rachida Dati, le budget de la culture a bien baissé. Et continué, entre autres contre-vérités professées sur un ton bravache, la ministre de la Culture a déclaré dans la matinale de France Inter ce mercredi 7 mai que le budget de son ministère était en augmentation. Les chiffres disent pourtant le contraire. Nos amis de l'association 813, les amis des littératures policières, sous la plume de Corinne Nédé, ont publié dans le dernier numéro de leur revue un éditorial dont je vous lis l'extrait suivant. Le budget du ministère de la Culture diminue, première fois depuis longtemps, de 0,06%. Et les régions amputent les crédits alloués avec ce record d'une baisse de 73% pour les Pays de la Loire. Des lieux vont donc disparaître. De nombreuses manifestations vont elles aussi mettre la clé sous la porte, à tout le moins réduire drastiquement la voilure. Les raisons invoquées tournent autour de la même idée générale, recentrons vers l'indispensable, diminuons la part de ce qui semble superflu, qui paraît donc, selon certains, carrément inutile. En effet, que vaut une pièce de théâtre ? Le directeur de l'emblématique TNP à Villeurbanne préfère s'en aller en Suisse. On voit le budget fondre comme neige au soleil, dit-il. Un concert lorsque les édiles leur opposent éducation, santé publique. Les discours sont bien rodés et s'il est bon de voir quelques Gaulois résister, en Bretagne, à Marseille, à Lille par exemple, mais aussi à Millau, il est aisé d'imaginer la suite de ces premières mesures. Tout ce qui ne rapporte pas, donc toutes les manifestations gratuites, les arts de la rue, les festivals de polar, citons ce qui correspond au but de notre association, sacrifiés sur l'autel des sacro-saintes économies. Ainsi que le souligne Terry Lowe, organisateur de Passerial S'abstenir à Besançon, diminuer voire supprimer des subventions, c'est nous priver de ce carburant qui fait avancer notre véhicule de générosité, de curiosité, d'éveil culturel et d'ailleurs sans cesse renouvelé de contes, d'histoires, de passions et d'amour de la littérature. C'est aussi empêcher la cohésion sociale de se faire dans les lieux où la culture se partage. Et surtout, ne plus permettre une compréhension du monde qui lutte contre l'intolérance et certains extrémismes. Teasing, Corinne Nédé et Jacques Lerognon de l'association 813 seront à Millau le 27 septembre prochain pour une animation autour du polar, de la gastronomie et du pinard bien sûr. Nous vous en dirons plus évidemment dans un prochain chapitre de Polar Vin et Compagnie et merci à la collectivité locale de continuer de soutenir la culture, elle.
Rien à vendre, je n'ai rien à vendre. Ken Bruen. Alors Ken Bruen, c'est un Irlandais de Galway, tristement célèbre en France avec le chanteur Michel Sardou, les portes du Connemara. Il est né en 51, il est mort il n'y a pas longtemps, en 2025. Il est l'auteur de deux séries principales. Une qui fait un hommage au 87e district de Ed McBain et l'autre qui met en scène un inspecteur, Jack Taylor, où l'action se passe à Galway, justement. Et là, je vais vous lire des extraits du premier livre de cette deuxième série, qui s'appelle Delirium Tremens. Alors, c'est très irlandais, c'est un peu sombre. Et pour les futurs bacheliers, je vais vous lire Linky Pit. Voilà. Il est quasiment impossible de se faire renvoyer de la Guardia Rihanna. Il faut vraiment y mettre du sien. Tant que vous ne devenez pas un objet de honte, ils sont prêts à tolérer presque n'importe quoi. J'avais atteint la limite, plusieurs mises en garde, avertissements, dernière chance, sursis, et je ne m'améliorais toujours pas. Je ne dessoulais pas non plus. Ne vous méprenez pas, les gardailles et l'alcool entretiennent une vieille relation presque amoureuse. À vrai dire, un garda abstinent est considéré avec méfiance, quand ce n'est pas avec une totale dérision à l'intérieur et à l'extérieur de la police. Mon supérieur à la caserne de formation disait « On aime tous boire une pinte ». Hochement de tête et grognement chez les jeunes recrues, et le public aime qu'on aime ça, de mieux en mieux. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les canailles. 10 ans plus tard, j'en étais à mon 3e avertissement, je fus convoqué devant un responsable et on me conseilla de me faire aider. Les temps ont changé, mon gars. De nos jours, il existe des programmes de soins et des centres spécialisés, toutes sortes d'aides. Avoir un penchant pour la bouteille, c'est plus une honte. Là-bas, vous côtoyez le clergé et les politiciens. J'avais envie de dire, c'est censé me motiver, mais j'y suis allé. Une fois libéré, je suis resté sobre pendant quelques temps, mais petit à petit, je me suis remis à boire. Il est rare qu'un garda soit affecté chez lui, mais on estimait que ma ville natale me serait bénéfique. Une mission un soir de février dans un froid mordant, noir comme dans un four, mise en place d'un contrôle de vitesse à la périphérie de la ville. Le sergent avait stipulé « Je veux des résultats, pas d'exception ». Mon collègue était un type de Roscommon, nommé Clancy. D'un tempérament accommodant, il semblait ignorer mon alcoolisme. J'avais emporté un thermos de café blindé au brandy. Tout se passait bien, trop bien. C'était calme. L'info concernant notre emplacement s'était répandue. Les automobilistes respectaient la limitation de vitesse de manière suspecte. Clancy poussa un soupir et dit « Ils nous ont repérés, c'est sûr. » C'est alors qu'une Mercedes passa en trombe. Clancy s'exclama « Nom de Dieu !» J'enclenchai la marche avant et on démarra. Assis à la place du mort, Clancy dit « Ralentis, Jack, faut mieux laisser tomber. Hein ? La plaque, tu l'as vue ? Ouais, et alors ? C'est un type du gouvernement. C'est scandaleux. » Je fis beugler les sirènes, mais 10 bonnes minutes s'écoulèrent avant que la Merco s'arrête. Au moment où j'ouvrais ma portière, Clancy me retint par le bras et dit « Un peu de doigté, Jack. Ouais, c'est ça. » Je frappai à la vitre du conducteur, il prit tout son temps pour l'abaisser. Avec un petit sourire narquois sur les lèvres, le chauffeur demanda « Il y a feu quelque part ?» Descendez. Avant qu'il ait le temps de réagir, un homme assis à l'arrière se pencha et demanda « Que se passe-t-il » Je le reconnus. Un politicien en vue. Je dis « Votre chauffeur conduisait comme un dingue. » Il demanda « Savez-vous à qui vous parlez ?» Oui, au PNQ qui a niqué les infirmières. Clancy essaya d'intervenir et il murmura « Mon Dieu, Jack, arrête !» Le politicien était descendu de voiture et il s'approchait de moi. Indigné au plus haut point, il braillait. « Je vous ferai foutre dehors, espèce de blanc-bec impudent. Vous savez ce qui va se passer ?» Je répondis « Je sais exactement ce qui va se passer. » Et je lui écrasai mon poing sur la gueule.
Merci Richard pour ce partage et merci de nous avoir fait découvrir Ken Bruen et Jack Taylor dans le bien nommé Delirium Tremens. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Mais en attendant, retrouvons Florent et sa pépite du mois.
En 1455, Johannes Gutenberg a imprimé la première Bible.
Et ne recommence pas, hein, sinon...
Je vais briser tes os! Je vais boire ton sang!
Et toujours comme ça, la première fois...
Nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir Éric Goffin. Bonjour Éric Goffin.
Bonjour.
Alors Éric Goffin, vous êtes avec nous pour ce premier roman en français, un polar de haute tenue littéraire et qui tient en haleine les lecteurs. Et l'haleine ici sur le Larzac, on sait de quoi on parle. Le magnifique Un pays sans chemin aux éditions du Rouergue Noir. Et avant d'aller plus loin dans les intrigues de Caïrne, le nom du petit village où tous les événements de ce polar se déroulent. Je vais présenter rapidement Éric Goffin, si vous me permettez, mais alors très rapidement. Vous êtes né à Düsseldorf, et la particularité, c'est que Un pays sans chemin est votre premier roman écrit en français, car vous avez déjà fait paraître dans votre langue maternelle, en allemand, deux romans dont je vais vous laisser me donner les titres.
Effectivement, il vaut mieux que je les prononce. L'un s'appelle Der Ampelgeschichten erzählen, c'est le narrateur du feu rouge, comment je vaincus le fascisme, et l'autre s'appelle Wahrheit ist ein weglose Sache.
Et celui-là, vous voulez traduire le titre ou...
Je peux le traduire aussi. C'est La vérité est un pays sans chemin. Vous voyez, donc c'est relativement proche.
D'accord. Alors, c'est intéressant, alors, justement. Mais alors, évidemment, la toute première question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi un polar et pourquoi en français ?
C'est une affaire qui s'est passée en France et qui, effectivement, avait marqué les esprits et les souvenirs en France, particulièrement dans les années 90. Et deuxièmement, je vis entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire je vis en France depuis plus de 30 ans, et entre la France et l'Allemagne, ouais. Notamment entre Berlin et les Alpes-de-Haute-Provence. Et c'est vrai que ça m'a tenté, par rapport à cette affaire que je suivis, sur laquelle j'ai parlé, j'ai enquêté, effectivement, de me lancer à l'écrire en français. Surtout, beaucoup de monde m'a demandé cette affaire-là. Vraiment, il faudrait la publier en France. Et puis, finalement... Ça a été couronné de succès.
Ouais, mais vous avez bien fait, en tout cas. Enfin, parce que moi, je ne lis pas l'allemand, donc c'est sûr que oui. C'est mieux. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Donc, en fait, vous aviez peut-être plus envie de raconter cette histoire en français que d'écrire une histoire en français. Je dirais que c'était plus particulièrement cette histoire, parce que c'est vrai
que... C'est tout à fait, c'est ça.
Ce point étant éclairci, je voulais revenir à ce que vous disiez, enfin le titre de votre deuxième roman en allemand, parce que justement, le titre du roman français « Un pays sans chemin », je me demandais si c'était un clin d'œil au texte de Krishnamurti.
Tout à fait. D'ailleurs, cette phrase « La vérité est un pays sans chemin » vient également dans ce roman au moment d'un interrogatoire, c'est-à-dire que ça se trouve dans les notes
exactement.
D'un des protagonistes.
Ouais, d'un des protagonistes importants de l'affaire.
Voilà. Okay. C'est une très belle phrase.
C'est un texte assez long, mais c'est un beau texte aussi.
Magnifique.
Donc, je vais faire un très court résumé de ce roman que je trouve magnifique et que je trouve aussi remarquablement classique dans le style, en fait. Donc, pour faire simple, l'action se situe dans le village de Caïrn, dans les Alpes de Haute-Provence. Au-dessus du village, il y a les bâtiments de la ferme La Dauphine, où vit le dénommé Sylvain Coulon, qui est, pour faire simple, un fils de bourgeois marginal que peu de gens apprécient au village. Et ce village où vit aussi, comme retiré du monde, mais pas tant que cela, on le découvre au fur et à mesure, le docteur Ziegler et son employé de maison, Annette. Voilà, c'est dans un décor provençal, je dirais, où la rudesse de la terre se mêle à la rudesse des hommes dans un cocktail violent et assez instable qu'un crime terrible va faire exploser. Le meurtre de Natacha qui va bouleverser alors un panel de personnages absolument fascinants. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a pas mal de personnages. Hein. D'ailleurs, vous en faites la liste à la fin du roman. Enfin bon, c'est pas quand même un roman de Tolstoï avec 160 personnages, mais bon, ça se tient bien. Puis surtout, tous les personnages, tous les dialogues sont ciselés. Donc j'invite tout le monde à se plonger dans ce roman. Et j'ai envie de souligner aussi votre talent, Éric Goffin, le talent à faire vivre justement ces personnages à travers des dialogues remarquables. Votre talent a une précision remarquable, elle aussi, pour passer de la violence sociale à la violence politique, en passant par la violence du système judiciaire. Et votre talent aussi à faire parler Annette, la domestique de Ziegler, via une superbe relation épistolaire, assez courte hein, par rapport au volume du roman, mais qui est vraiment superbe. Et j'aimerais savoir à quel moment dans l'écriture vous avez pris le plus de plaisir dans la relation, dans, des faits politiques ou dans les relations sociales ou dans cette poésie justement qu'on retrouve, enfin moi je trouve dans les lettres qu'écrit Anna à son amie.
Et je vous dirais que le personnage d'Annette, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir avec elle. C'est vrai que c'est un personnage un peu particulier, l'observatrice, mais qui a quand même un regard assez clairvoyant, assez perspicace, qui cherche, qui... Oui, c'est un peu le côté poétique dans l'histoire. À l'opposé, le docteur Ziegler, pareil, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu à le développer, puisque quelque part, pour moi, c'est une sorte de métaphore de tout ce roman, quelqu'un qui cherche à enquêter sur la grande trahison de sa vie, qui cherche à rendre justice, à se rendre justice, qui va s'impliquer donc par la suite, quelque part par une sorte de transposition, dans cette lutte pour la justice par rapport à la famille de la victime et par rapport au village, qui trouve son rôle, en quelque sorte, à travers cette affaire.
C'est très vrai, puis je... Alors c'est... D'ailleurs, votre roman n'est pas spécialement centré sur la victime, Natacha. On voit que tous les personnages ont leur importance et ils forment une sorte d'univers, un très bel univers psychologique, comme par exemple la vision très parisienne de certains avocats et journalistes. C'est quand même triste, la vie en province, dit l'un d'entre eux, autour de la machine à café qui ne fonctionne pas là-haut. Au palais de justice local, qui doit être le palais de justice de Digne.
De Draguignan.
Ah, de Draguignan, ok.
Voilà.
Voilà, puis c'est vrai que le docteur Ziegler, pour en revenir à ce que vous disiez, c'est un personnage, lui, c'est un personnage qui est sorti de votre imagination, complètement.
Oui, tout à fait. Il est sorti de mon imagination, de ma fantaisie, tout en ayant côtoyé ce genre de personnage. Bon, on en connaît, je pense, tous des gens autour de nous auxquels, éventuellement, on pourrait rapprocher le docteur Ziegler. C'est mon éditrice qui me disait d'ailleurs à l'époque, me disait, ben là, alors l'archétype, c'est ce que j'appelle un personnage toxique, vous voyez.
Oui, c'est vrai qu'on se pose la question aussi de la part du réel et de la part de la fiction dans votre roman, parce que dans l'histoire originale, Sylvain Coulon, qui porte un autre nom, n'a pas exactement le même... Enfin, il a le même rôle, mais
oui,
pas la même empreinte sociologique. Vous voyez, chez vous, c'est un fils de bourgeois, et je crois que dans l'histoire, dans le fait divers, c'est un fermier.
Oui, c'est-à-dire, ça reste quand même un fils de bourgeois. Toujours, c'est-à-dire, on lui a prêté à l'époque, soi-disant que son père était colonel à la DGSE, et puis, bon, il y a le frère qui était le rédacteur en chef de la Revue Esprit, d'ailleurs, de Richard Roman, qui était un personnage auquel je fais référence. Mais, de toute façon, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire, je me suis bien éloigné de l'affaire réelle. D'ailleurs, ce n'était pas du tout le but de la transcrire, d'en faire le récit. Par contre, c'est vrai, afin de nourrir mon propre récit, j'ai énormément enquêté sur l'affaire réelle. Je parlais avec tous les avocats, avec les juges, avec les policiers, avec les gens du village. Mais là, c'était surtout une façon de chercher à comprendre le noyau de cette affaire et, effectivement, à trouver l'inspiration pour en faire après un roman qui est une fiction totale.
Oui, ça fonctionne bien, parce qu'en plus, cette affaire a été très longue dans le temps, enfin,
oui,
étant donné les rebondissements, donc votre roman est en trois parties, et dans la structure du roman, on change en plus à chaque fois d'univers, enfin, je trouve ça extrêmement ciselé, vraiment très spécial dans la manière dont vous arrivez à passer de ce petit village de province à tout ce combat judiciaire avec tous les rebondissements qui va avec. En tout cas, moi, j'ai été fasciné. Mais vous vous êtes intéressé à ce crime par hasard ou parce que vous êtes vraiment... vous connaissez bien la région et peut-être que ça s'est passé pas loin de chez vous, je sais pas.
Ça, tout à fait, vous avez bien vu. Effectivement, ça s'est passé en plus lorsque je me trouvais à 20 km du lieu, donc c'est toujours à ce moment-là, peut-être on se sent plus concerné. C'est vrai que cette affaire m'a intrigué de suite. C'était surtout parce qu'il y avait cette histoire de deux coupables qui auraient violé une petite fille. C'était un crime planifié froidement. C'était, bon, on le prêtait une histoire de gourou, une histoire de secte. Il y avait un tas de fantasmes, je dirais, autour. c'est vrai que c'est, bon, en même temps, c'est une histoire qui a mis, qui est logique, qui a mis un émoi à tout un village, toute une région, et qui a eu ses répercussions pendant des années. Moi, je me suis toujours intéressé aux affaires judiciaires.
D'accord.
Je travaillais journalistiquement sur ce genre d'affaires. C'est vrai que la justice, je trouve, c'est un sujet, pour un romancier, c'est un sujet merveilleux. C'est pour ça que je reviens d'ailleurs à votre question initiale, pourquoi écrire un polar. Moi, je dirais toujours les meilleurs auteurs, d'ailleurs, de romans policiers, presque ce seraient les grands classiques comme Balzac, Dostoïevski, qui, effectivement, se sont servis aussi très souvent d'une intrigue ou d'une affaire justice, d'une affaire de meurtre, etc., pour transporter des grands sujets à la fois sociétal et ouais, des sujets psychologiques, à développer effectivement un théâtre, un drame. Je dirais que l'intrigue policière, elle sert toujours un peu presque des kérosènes, vous savez, pour tenir en haleine
ouais, le lecteur. Ouais.
Mais après, pour moi, il s'agit aussi de faire vivre toute une panoplie de personnages. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'aime bien, justement, où je cherchais cette écriture polyphonique, où je cherche moins à décrire les personnages qu'à les faire parler, de façon que le lecteur puisse vraiment les vivre.
Ouais, c'est vrai qu'il y a tout ça dans votre roman, et particulièrement les dialogues. Alors, on aurait pu encore parler longuement de votre roman, Éric Goffin. Malheureusement, ce court entretien touche à sa fin, mais j'ai deux dernières questions. D'abord, j'aimerais connaître, si vous voulez les partager, vos projets littéraires aujourd'hui, vos futurs projets.
Là, je suis en train de, parce que j'ai écrit, et ça, j'espère qu'il sera publié en Allemagne l'année prochaine, je travaille sur une trilogie berlinoise, dont justement le narrateur des feux rouges, Der Ampelgeschichte, elle a été la première partie. Là, je suis en train de finir cette trilogie berlinoise. Je suis là maintenant, le roman sur lequel je travaille. Je suis en train de revenir de Berlin, dans les Alpes d'Haute-Provence, où j'écris, là on est à nouveau plutôt dans une affaire, un peu policière, mais là cette fois-ci il s'agira d'une affaire, ce sera un polar, je qualifierais de polar écologique.
D'accord. Hein,
voilà, où on assiste à des grandes tensions autour d'un barrage.
Un polar inspiré de faits réels.
Effectivement, il s'agit de le fait réel dont je me suis inspiré, c'est le fameux barrage de Malpasset qui avait cédé en 1959 ici dans le Var. C'est un barrage qui menace éventuellement de céder sous des pluies torrentielles, de la neige qui s'accumule en montagne.
D'accord.
Et qui met sous tension un village entier. Bon, là, après, il y aura un tas d'intrigues qui se développeront.
Bon, on a hâte. Et puis, enfin, je vais vous demander votre conseil dégustation, boisson et musique pour accompagner la lecture de votre roman.
Oh ben, écoutez, un bon petit rouge, je conseillerais un petit Morgan, un petit Brody, ou pourquoi pas un petit Croz Hermitage. Voilà.
Et en musique, qu'est-ce que vous...
En musique, alors là, je vous dirais Coltrane, Kind of Blue, par exemple, merveilleux.
Absolument.
Herbie Hancock, très bien. Ou autrement, tiens, dernière suggestion, Lou Reed. Voilà.
Excellent, n'importe laquelle de Lou Reed.
Voilà. Ah oh, oui,
absolument.
New York, voilà, pourquoi pas.
Tout Lou Reed de l'album Berlin.
Oui, très bien.
On connaît tout ça sur Radio Larzac. Alors, je rappelle le titre de votre roman, Un pays sans chemin, aux éditions Le Rouergue-Noir. Merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps, Éric Goffin.
Et merci beaucoup à vous.
Think it speeding and lonely. Come here, baby. How do you think it feels when all you can say is if only, if only I had a little, if only I had some change. Come here, baby. If only, if only, only. How do you think it feels? And when do you think it stops? Up for 5 days, come down, mama. Hunting around always. Ooh. Cause you're afraid of sleeping. How do you think it feels to feel like a wolf and foxy? How do you think it feels to always make love by proxy? How do you think it feels? And when do you think it stops? When do you think it stops?
Vous avez reconnu Lou Reed, comme nous l'avaient soufflé Eric Goffin et Florent, How Do You Think It Feels, tiré comme vous l'avez compris du très controversé Berlin, car considéré comme un des disques les plus mélancoliques du rock'n'roll.
Il y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
C'est pas interdit que je sache.
Et on retrouve Lionel à Intercave à Millau.
Salut William.
Alors ce coup-ci, c'est Eric Goffin, qui est un auteur allemand, qui a écrit son premier polar en français justement, qui s'appelle Un pays sans chemin. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il nous conseillait comme vin pour accompagner une bonne lecture de son roman, il nous a parlé d'un Kroos-Hermitage. Alors Kroos-Hermitage avec un H à Hermitage.
Tout à fait, bah, c'est un très bon choix, oui. Très joli vin, Kroos-Hermitage, ouais.
Alors Kroos-Hermitage, vallée du Rhône, entre Drôme-Ardèche, juste au-dessus de Valence.
C'est ça, Kroos-Hermitage, on est dans ce qu'on appelle le Rhône septentrional, contrairement au Rhône méridional, où t'as tous les Gigondas, tous les Rastos, tout ça. Donc côte du Rhône du Nord, du coup, hein, septentrional, on trouve du coup le Kroos-Hermitage. En face, de l'autre côté du Rhône, il y a le Saint-Joseph. Si tu remontes un peu, tu trouveras les Cornas, l'Hermitage, le Côte-Rôti, appellations les plus prestigieuses, en fait. Hein, voilà. Donc, dans ce Rhône du Nord, ça fait partie des vins les plus abordables niveau rapport qualité-prix. Ouais.
Alors, on revient au Kroos-Hermitage. Alors, le Kroos-Hermitage, eux, c'est la Syrah, qu'on trouve souvent associé au Grenache, au Mourvèdre, je pense au Pic-Saint-Loup notamment. Okay. Et là, par contre, il n'y a pas d'assemblage.
Ouais, donc particularité de cette appellation, en fait, c'est qu'en rouge, c'est 100% Syrah. Contrairement si tu prends un Côte-du-Rhône, un Vaqueras ou un Gigondas, tu auras Grenache, Syrah, Mourvèdre, au moins les trois dedans. Donc c'est particularité de ces crues, hein, des Côtes-du-Rhône du Nord, ouais.
Alors souvent dans les assemblages de Syrah, celui qui amène un peu le tanin, non? Donc c'est pas un vin trop tannique?
Dans la jeunesse, la Syrah amène beaucoup de fruits, des petits fruits rouges, un peu de fleurs violettes. Souvent on dit voilà, Syrah c'est fruits rouges, un peu de violette, un peu de côté un peu épicé aussi. Voilà. Alors au niveau tanin, ça dépend du terroir. Les Crozes Hermitage justement sont pas trop tanniques contrairement à l'Hermitage. Ça dépend vraiment du terroir et aussi de l'élevage en fût ou pas. Donc Crozes Hermitage, Syrah, ça reste un vin quand même. C'est sur la gourmandise quoi, sur le fruit, la gourmandise. Souvent c'est assez fin, tout en finesse, tu vois.
Donc il accompagnerait quel type de plat?
Ah bah moi je trouve l'accord parfait, Syrah, côte de bœuf. Ouais, c'est top.
Au barbecue.
Carrément, viande grillée, côte de bœuf. Moi, je trouve que c'est un joli accord, tout en finesse, en fait, voilà.
Donc le T-bone, donc c'est bien, c'est la saison, là.
Ouais, carrément. Hein. Essayez, franchement, un Saint-Joseph avec une côte de bœuf, voilà, c'est en finesse. Après, dans la jeunesse, c'est des vins, tu peux les mettre avec une viande blanche, même, tu vois, du lapin, des trucs comme ça, un plateau de charcuterie. Saint-Marcellin, pourquoi pas, dans la jeunesse, quoi. Après, ils évoluent et on n'est plus sur des viandes des gibiers, des viandes grillées.
Ce sont des vins de garde ou...
Ah oui. Très grande garde. Par exemple, si tu prends, alors pas les Crozes Hermitage, mais si tu prends un Hermitage, c'est des vins qui ont une garde hyper longue, 30 ans, 40 ans, ouais. Et qui sont quasiment impossibles à boire dans leur jeunesse, un Hermitage, si tu veux.
Je crois qu'ils ont aussi des blancs.
Tout à fait, Crozes Hermitage blanc, donc Roussanne-Marsanne en général, voilà, c'est deux cépages, hein, c'est ça, Roussanne-Marsanne. C'est plus confidentiel, tu as du Saint-Joseph blanc, du Crozes Hermitage blanc, beaucoup moins. Hein. Je donne des vins très agréables. Roussanne-Marsanne, c'est rond, c'est fruité, voilà.
Les prix à peu près, pour donner une idée
Crozes Hermitage, tu peux commencer dans les 15 euros, je pense, pour avoir quelque chose de vraiment sympa, d'un bon vigneron. Ouais, on est entre 15 et 20, je pense, ouais. Ça peut monter plus, hein, voilà. on va dire 20 euros, quoi, allez. C'est un des crus les plus abordables de la vallée du Rhône Nord. Parce que si tu prends un côte rôti ou un Hermitage, t'es plus dans les 60 euros. Tout de suite, hein. Voilà. Donc, ça reste abordable pour ceux qui veulent justement goûter ces 100% Syrah, voir un peu ce que ça donne. Il faut aller sur un Crozes Hermitage ou un Saint-Joseph.
Ben merci Lionel. Merci on va apprécier donc un petit Crozes Hermitage en lisant évidemment Un pays sans chemin d'Éric Coffin qu'on va consommer, pas le livre, mais le vin, avec modération.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Ce 14e chapitre de Polar Vin et Compagnie se ferme. Nous vous retrouverons le 30 mai pour vous faire rencontrer Sébastien Vidal, l'auteur du dernier roman en lice pour le prix Robin Cook de Neige et de Vent. Alors surtout, n'oubliez pas d'aller voter dans votre médiathèque ou bibliothèque pour élire le prix Robin Cook 2025 et rappelez-vous que même si vous n'avez pas lu les 5 romans en lice, vous pouvez quand même voter. Merci Nico pour la technique et la patience. Rediffusion de ce numéro mardi à 16h, sans oublier les podcasts de toute la saison sur radiolarzac.org. Et on vous dit à dans 15 jours.